On sera dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 15. Page 775. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ses péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Quand des chrétiens vivent en chrétien, est-ce que ça impressionne qui que ce soit ? Que pensent nos collègues, amis, cousins et voisins de la vie chrétienne que les chrétiens parmi nous vivent au quotidien ? Est-ce que c'est une vie vraiment à part ? Est-ce qu'ils y voient du courage ? Certains d'entre vous sont peut-être ici ce matin par curiosité. Vous êtes là et pour le coup, vous voyez des chrétiens dans leur élément, dans un contexte communautaire. Est-ce que vous en êtes impressionné ? Est-ce que vous y voyez de la sincérité ? Je pose la question aux uns et aux autres, car quand on est dedans, on n'est pas le meilleur juge de ce qui se joue en nous. J'imagine que le compte-rendu que les chrétiens donneraient de la vie chrétienne qu'ils vivent ne serait pas glorieux. Si nous sommes chrétiens, nous ne serons jamais impressionnés par nos propres vies, parce qu'il y a beaucoup à redire, à faire et à refaire. Est-ce que nous allons alors en venir à nous dire, à propos de nos attitudes et de nos pratiques, rien de remarquable, rien à signaler ? Mais est-ce qu'on aurait raison de penser cela ? Dans cet épître aux Colossiens, Paul va relier une vie chrétienne apparemment normale à une spiritualité très haute. Les attitudes et les pratiques qui nous paraissent peut-être normales si nous sommes en Christ sont finalement très élevées et très rares. Ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que notre courage chrétien serait finalement hors norme ? Est-ce que notre sincérité chrétienne serait hors norme ? Ce n'est pas pour autant qu'on s'enorgueillirait de quoi que ce soit. Et puis toujours le moteur qui fait avancer nos machines avec courage et avec sincérité, c'est Jésus-Christ. À lui le crédit, à lui la gloire. Car il y a bel et bien dans la vie chrétienne quelque chose de remarquable, ou plutôt quelqu'un. Et il faut que nous sachions le remarquer. Parce que si on ne sait pas qu'on est assis sur une pépite, on va aller chercher ailleurs. Et dans le processus, on va s'éloigner de ce qui fait notre force. Les Colossiens étaient sur cette pente dangereuse, persuadés qu'il leur manquait encore quelque chose. Il était temps qu'ils soient enracinés en Christ pour de bon, afin qu'ils n'aillent plus ni à droite ni à gauche. C'est justement pour cela que l'apôtre Paul leur écrit, afin que le Christ ne quitte jamais leur radar. Vous connaissez peut-être le jeu du chaud et du froid. Il s'agit de trouver une chose cachée. Et avec des indications orales, chaud, froid, on essaie de se rapprocher de la cible. Eh bien, si personne ne nous dit « tu brûles » quand nous y sommes tout juste, Alors on va continuer à se déplacer encore et encore, à droite et à gauche. Et dans ce processus, on va forcément s'éloigner.
Les Colossiens auxquels Paul écrivait avaient besoin d'entendre de sa part ces deux mots « Tu brûles ».
Pour ne pas qu'ils aillent chercher ailleurs la pépite sur laquelle ils étaient déjà.
C'est d'une spiritualité extraordinaire dont ils vivaient déjà qu'ils ne s'y trompent pas.
Mais peut-être que la manière avec laquelle l'apôtre Paul dit « tu brûles » est encore trop vague à notre goût. Est-ce que le message passe ? Je ne sais pas quelles ont été vos premières réactions quand vous avez entendu la lecture de ces 15 versets. On a affaire à un passage magnifique sous la plume de Paul, sans doute.
Mais dans le même temps, on doit s'avouer qu'on trouve ici des considérations spéculatives, dont on ne sait pas trop à quoi elles correspondent. Par exemple, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est très beau, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, pratiquement ?
Et quand notre passage touche à des choses plus pratiques, c'est pour nous asséner des listes qu'on a du mal à digérer, si on est honnête. Voyez le verset 5 et le verset 8. Par deux fois, cinq éléments à la suite. Et sur la seconde moitié du passage, on subit une batterie d'impératifs qui s'éclipsent presque les uns les autres. On a du mal à se concentrer et quand on finit notre lecture par « Soyez reconnaissants » au verset 15, ça nous prend un peu par surprise et on en a presque oublié tout ce qui a précédé. Autant dire que si le passage est magnifique, c'est aussi un passage un peu hermétique. Où est-ce qu'on en est exactement une fois la lecture achevée ? C'est un passage dans lequel il est difficile d'entrer dès qu'on pense être entré dans le texte au travers d'un mot qui nous accroche. Nos pensées nous éloignent peut-être du passage dans son ensemble. Ça a été mon expérience dans la préparation et c'est peut-être la vôtre ce matin. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Comme souvent, quand on a du mal à appréhender un texte biblique, on va gagner à mettre en lumière la structure. Parce qu'une fois qu'on a la structure bien en vue, le vocabulaire imagé de l'apôtre fera tout le travail pour nous. Les images vont nourrir les étapes de notre réflexion. Il me semble qu'il y a deux blocs parallèles qui se dégagent ici, et ce sont ceux qui sont relevés dans cette version. Le premier couvre les versets 1 à 8, et le second les versets 9 à 17. Chaque bloc va commencer par un impératif majeur. Un fondement est avancé ensuite, et on poursuit avec des actions qui en découlent par conséquent. Regardez les versets 1 à 8. Impératif, veillez aux choses d'en haut. Ce sont les versets 1 et 2. Fondement, car vous êtes morts et réveillés avec le Christ. C'est le verset 3 auquel il faudrait ajouter les premiers mots du verset 1. Conséquence, donc mettez à mort les choses d'en bas. Les versets 5 à 8. Veillez aux choses d'en haut, car vous êtes morts et êtes réveillés avec le Christ. Donc mettez à mort les choses d'en bas. Et une séquence parallèle qui va d'un impératif à un fondement, puis à des actions qui en découlent, se retrouve au verset 9 à 17. Impératif, ne vous mentez pas les uns les autres. C'est le début du verset 9. Fondement, car vous vous êtes déshabillés et vous vous êtes rhabillés selon le Christ. Ce sont les versets 9 à 11. Conséquence, donc, entretenez-vous les uns les autres avec amour. Les versets 12 à 17. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes déshabillés et vous vous êtes rhabillés selon le Christ. Donc entretenez-vous avec amour. Au passage, remarquez que peut-être la deuxième partie, au verset 9 à 17, est assez communautaire quand le premier bloc est plus individuel. Premier bloc met en avant les choses d'en haut contre les choses d'en bas. Tout tourne autour de la mort et de la résurrection du Christ, et tout se joue dans la tête d'individus, qu'il s'agisse de pensées hautes ou de pensées méchantes. Le second bloc met en avant un nouvel habit contre d'anciens habits. Et tout tourne autour d'un nouvel homme qui est modelé d'après le Christ. Tout se joue à un niveau plutôt horizontal. Et on peut en juger avec la précision au verset 9, les uns les autres. Et on retrouve cette formule au verset 13 et au verset 16. Ce bloc concerne comment on se traite au sein du corps qu'est l'Église. Avec ces quelques considérations, je vous propose deux points ce matin. Premièrement, penser haut. Deuxièmement, parler vrai. Premier point, penser haut. Verset 1 à 8. Autrement dit, veiller aux choses d'en haut. Pourquoi les choses d'en haut ? Pourquoi regarder en haut ? Il y a plein de regards profitables qu'on pourrait porter à droite et à gauche. Pourquoi regarder forcément en haut ? Le verset 1 donne aussitôt la réponse. En haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Selon le récit des Actes,
Après 40 jours, le Christ ressuscité s'est en effet dirigé vers le ciel, jusqu'à temps que la terre soit en mesure de le recevoir à nouveau. Mais que faut-il regarder exactement ? Bien, il ne s'agit pas de regarder le ciel au sens strict. Après que Jésus soit monté au ciel, des anges ont justement dit aux apôtres ces paroles. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Donc quand la Bible évoque le ciel, les choses de là-haut, elle évoque le domaine propre de Dieu. Autrement dit, ce ne sont pas nos deux yeux physiques qu'il s'agit de diriger fixement là-haut. Ce sont nos têtes qu'il faut disposer intérieurement envers les choses de Dieu. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est plus avancé ? J'ai suggéré en introduction que ces versets pourraient avoir quelque chose de vague. Est-ce que c'est encore le cas ? Mais non, ce n'est pas comme si le ciel était une désignation vague dans ce passage. Le ciel est habité par le Christ. Et cela en dit bien assez. Chercher les choses d'en haut, c'est se tourner vers le Christ qui a été entre-temps révélé. C'est à notre portée. Chercher les choses d'en haut, c'est pas scruter un monde d'ombre, essayer de discerner quoi que ce soit. C'est pas aller de mystère en mystère. C'est pas tâtonner dans le brouillard à la manière d'un agnostique. Non, c'est plonger son regard dans le Christ qui occupe le ciel. Sa vie, au sens strict, figure sur quatre évangiles, et tout le reste de la Bible met encore ce Christ en lumière. Rechercher les choses du Christ, ça, c'est clair. Et non seulement c'est clair, mais encore c'est assez naturel. Paul, il n'envoie pas les Colossiens dans la quête du Saint Graal ou quelque autre cible fantaisiste. Il les dirige vers le Christ révélé, désormais élevé. Remarquez avec le verset 4 que Paul les dirige vers celui qui est désormais leur vie. C'est important car souvent une quête ardente va faire que la personne n'est plus la même à l'issue de l'aventure, une fois que la chose qu'on cherchait a été trouvée. Mais ce n'est pas comme si les Colossiens allaient devenir autre chose à l'issue de la quête qui est la leur. Paul compte bien qu'ils soient ce qu'ils sont déjà, ni plus ni moins. Et du coup, s'il s'agit de rechercher ardemment, il s'agit de rechercher qui ils sont. Quelle recherche est plus naturelle que celle-ci ? Et la réponse est en Jésus. Comme j'ai dit, la Bible le met à la portée des uns et des autres, mais encore, dans la mesure où les chrétiens vivent de l'union à Christ, ils sont déjà connectés intimement avec lui. Sa substance leur est étonnamment présente. Ils vivent déjà de sa présence vivifiante. Regardez le verset 3. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Représentez-vous des poupées russes. Vous êtes la petite poupée. Et voilà que la poupée Christ vient vous englober. Cette poupée Christ monte au ciel. Où êtes-vous ? Au ciel avec lui. Voilà ce que l'union à Christ a réalisé. Et quand on est aussi bien placé, où irions-nous ? Nous brûlons. On ne bouge plus. Par contre, il s'agit ensuite d'en tirer les conséquences. À nous d'être qui nous sommes vraiment. C'est aussi simple que cela. Et puisque le programme est clair et naturel, tous les prétextes à l'inaction vont sauter. Voyez-vous, avec les considérations de Paul ici, on est très loin de l'ésotérisme et de la complaisance qui est permise dans ces contextes. Passer des décennies à se fourvoyer sur une spiritualité très élevée, c'est exclu. Nous ne sommes pas des agnostiques, nous ne sommes pas des francs-maçons. Nous recherchons qui nous sommes, les yeux grands ouverts. Et nous sommes ouverts au plus grand des bouleversements dans nos vies, s'il le faut. Et si vous y êtes prêts, action. Regardez les versets 5 à 8. Faites mourir. Là, il s'agit de mettre à mort ce qui aurait dû mourir avec le Christ dans nos vies. Rappelez-vous le verset 3. Vous avez connu la mort. Ce qu'il s'agit de faire par conséquent, c'est mettre à mort tout résidu qui n'aurait plus lieu d'être. Auquel cas, on ne fera pas de manière. La faiblesse est exclue. Pas de quartier avec les choses d'en bas. Immoralité sexuelle, impureté, passion, mauvais désir, soif de posséder. Puis au verset 8, colère, fureur, méchanceté, calomnie, grossièreté. On ne fera pas de prisonniers. Ça peut en effrayer plus d'un, cette radicalité jusqu'à la mort. Ça fait un bon nombre d'années que la tauromachie et son rituel de la mise à mort du taureau représentent un spectacle insoutenable pour une majorité de Français. Ce que Paul nous propose dans ces versets détonne par rapport à une société qui s'est habituée à des demi-mesures. Une société qui va identifier de grands problèmes et proposer de petites solutions. Une société qui va défaire d'une main ce qu'elle a essayé de faire de l'autre. Une société qui va laisser subsister ce qu'elle condamne par ailleurs. Depuis les années 80, on ne veut plus condamner à mort en France. Alors on condamne à perpétuité. On condamne donc à la prison à vie, mais on libère après 20 ans. Allez comprendre. Est-ce que notre société sait aller au bout des choses? Quel contraste en tout cas avec la mortification, pour utiliser un vieux mot qui nous est présenté dans ces versets. Mettre à mort les choses d'en bas. Traquer la bête en nous et la tuer ensuite. Pas de prisonnier. Quand faut y aller, on doit aller au bout. Rien ne sert de laisser les cendres à partir desquelles le phénix pourrait renaître. Alors qu'on ne nous dise pas que la vie chrétienne est une facilité, qu'elle est une lâcheté. Du courage, il en faut et il y en a dans nos églises. Il en faut pour étrangler le mal et ne pas relâcher la pression trop tôt. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est le quotidien du chrétien par égard pour qui nous sommes en Christ, tout simplement. Tel chrétien qui va lutter corps et âme contre la pornographie, quitte à, s'il le faut, ne plus jamais utiliser d'ordinateur, en soirée ou le week-end pour quoi que ce soit. Tel époux chrétien qui va détourner son regard des femmes qui croisent sa route jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Tout ça par égard pour le Christ mort et vivant. Telle chrétienne qui va faire en sorte de ne jamais plus croiser tel ou tel partenaire potentiel, parce que celui-ci, tout attirant qu'il est, ne serait pas chrétien. Tout cela par égard pour le Christ mort et vivant. Telle épouse chrétienne qui va terrasser la moindre romance extra-conjugale, en vrai ou en rêve, de sorte qu'aucune porte ne soit jamais laissée entrouverte. Trop radical ? Mes amis, à quoi est-ce que vous auriez cru que la mise à mort ressemblerait ? C'est un processus systématique et il faut rien de moins que cela, tant nos pensées sont vilaines. Prenez la soif de posséder à la fin du verset 5. Certains d'entre nous seront particulièrement sensibles aux vitrines des agences immobilières. Les alertes immobilières vous parviendront chaque matin. Les magazines de décoration vous feront languir de vous installer dans ce prochain appartement, cette prochaine maison. C'est tout cela dont il faut prendre conscience. Si Christ est mon horizon, il est l'horizon de mes rêves, il me faut faire le ménage. Oui, c'est une vie chrétienne de tous les instants. Bienvenue au club et bon courage. Bon courage, le vrai courage, c'est pas celui du chevalier solitaire qui aime à penser qu'il va sauver une princesse, tuer un dragon. C'est celui du chrétien qui, jour après jour, monte au créneau et mène ses batailles ici et maintenant, dans la solitude qui n'en est pas une puisque nous sommes avec Christ. Si vous êtes venu par curiosité ce matin, prenez note de ce courage chrétien dans les petites et les grandes choses. Quel haut standard, quel égard pour la mort et la vie du Christ qui nous collent désormais à la peau et qui ont des conséquences sans mesure. Au contact de nos vies chrétiennes, peut-être que nos contemporains devraient reconnaître la légèreté de leur bataille. Telle personne qui est chagrinée par ses accès de colère répétés, mais qui se dit qu'en être consciente, c'est déjà pas mal. Telle personne qui insiste pour que ses enfants lui disent la vérité, mais qui ne voit pas de problème pour elle-même avec les petits mensonges qui ne font de mal à personne. Telle personne qui veut honorer sa femme malgré tout, et qui, au vu et au su de ses collègues, va reporter sa soif de nouveauté sur une nouvelle voiture plutôt que sur une nouvelle épouse. Telle personne qui veut bien faire attention aux excès de table, mais pas tant aux quantités d'alcool qu'elle boit. Telle personne qui veut bien arrêter le chocolat pour carême, mais qui aurait un mal fou à arrêter la calomnie pendant 40 jours. Comprenez-moi bien, quand des gens veulent changer pour le meilleur, c'est quelque chose à saluer, bien sûr. Mais disons-le, hors de Christ, on ne va jamais au bout de nos batailles. Ou alors on va au bout de batailles superficielles, mais pas des vraies batailles. Essayez donc de vous débarrasser de la méchanceté sans référence au Christ. Et si la substance véritable de notre sanctification était en Christ seul? Il est l'origine et le moteur de tout ce qui est bon, de tout ce qui est meilleur en nous. C'est pas pour autant que les batailles chrétiennes que nous allons mener vont être faciles. Elles sont difficiles, mais elles sont épiques. Nous ne changerions d'existence pour rien au monde. Nous vivons en effet des vies extraordinaires si Christ est notre vie. Car la mortification, les stimulations vivifiantes que nous connaissons, nous font aller au fond des choses. C'est précieux, ce n'est pas donné à tout le monde. Après « Pensez haut », l'apôtre Paul va embrayer avec une deuxième séquence. « Parlez vrai », second point au verset 9 à 15, le bloc plus communautaire. Ça commence avec cet impératif « Ne vous mentez pas les uns aux autres ». Là, c'est peut-être beaucoup plus spécifique que ce à quoi on se serait attendu, n'est-ce pas ? Après tout, le mensonge n'est peut-être pas le premier danger qui concerne nos communautés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais ça, c'est seulement si on envisage le mensonge verbal. Est-ce que les apparences dont nous nous entourons ne sont pas trompeuses ? Est-ce qu'elles ne sont pas menteuses ? Dire « ne vous mentez pas les uns aux autres », c'est dire « bas les masques, bas les masques ». Entre eux, la honte, car ils ont arrêté de faire semblant. Ils ont arrêté de raconter des salades autour d'eux. Ils ont accepté d'être vus par les uns et les autres, tels qu'ils sont vraiment. Alors oui, ne vous mentez pas les uns aux autres. Est-ce que nous avons ce genre de sincérité dans nos rapports les uns avec les autres ? Vous vous retrouvez le dimanche, sans doute en semaine également. Est-ce que nous avons l'intégrité de nous avouer les uns aux autres nos échecs ? Nos luttes, nos batailles. Où est-ce qu'on se refuse à un déballage ? Frères et sœurs, ne vous mentez pas les uns aux autres. Auquel cas, ne soyons peut-être pas trop rapides à répondre « Oui, ça va, et toi ?» Quand nos vies de couple ne vont pas bien du tout, parlons vrai. Quand nos agissements mauvais nous rattrapent, parlons vrai. Quand nos enfants nous font perdre le sommeil, parlons vrai. L'Église est là pour ça, n'ayons pas peur de déranger et n'ayons pas honte de nous dévoiler. L'Église est un corps qui est là pour ça. La transparence est de rigueur pour les chrétiens, mais Paul n'en reste pas là. Voyez le verset 10. « Vous avez revêtu l'homme nouveau. » Après le déshabillage, on s'est donc rhabillé. On a accepté d'être requalifié par un autre vêtement. Et ce vêtement est un vêtement qu'on partage avec d'autres, c'est un uniforme. De sorte que nous faisons partie d'un même corps, d'un seul corps, un corps d'armée, le corps de Christ. Et au sein de ce corps, nous sommes tous habillés pareillement, au même titre, sans distinction. Et c'est le sens du verset 11. Plus de distinction raciale, plus de distinction religieuse, plus de distinction culturelle, plus de distinction sociale. Et si on est tous au sein du même corps d'armée, imaginez quelle redevabilité les uns envers les autres, en découle. Au sein d'une organisation, on part d'un esprit de corps pour décrire la façon dont les uns et les autres veillent sur des intérêts communs. Esprit de corps. Quand on est passé par la même école, qu'on a obtenu la même qualification, on est en quelque sorte redevable les uns envers les autres. Les versets 12 à 15 vont décrire un esprit de corps. Jusque-là, rien de remarquable. Mais dès qu'on rentre dans le texte, on va voir le degré bien supérieur qui caractérise l'esprit du corps qu'est l'Église. Compassion, bonté, humilité, douceur, patience, pardon, amour, paix, reconnaissance. Je ne connais pas de classe ni de promotion qui s'applique ce genre de standard en tout temps et en tout lieu. Et au contact d'un tel standard, nos contemporains devraient sans doute reconnaître la légèreté des liens qui les lient entre eux. Ces liens sont certes pas méprisables, mais à côté du lien de l'amour, ce lien parfait dont il est question au verset 14. Tous les autres liens du monde doivent être reconnus comme légers. Et si la substance véritable de nos liens était en Christ. Est-ce que nous avons la sincérité et le désir d'exposer tout ce qui nous entoure à la profondeur de nos liens? Certains d'entre vous ne sont pas encore chrétiens. Est-ce que vous voudrez bien reconsidérer les vêtements chrétiens? Le tissu en question, si vous vouliez l'adopter, vous lirez à une confrérie, c'est sûr. Mais quel bel uniforme, le corps du Christ. Par contraste, qui voudrait en rester à des caches-misères? Il nous faut conclure. Il fut un temps où le monde regardait aux chrétiens individuellement et collectivement et en était impressionné, les deux, trois premiers siècles peut-être de notre ère. Mais avant cela, à un moment donné, au début des années 60, il en allait autrement à Colosse. Les chrétiens sur place étaient plutôt intimidés. Avec leur christianisme de base, ils ne pensaient pas avoir grand-chose à faire valoir. Ils étaient déstabilisés. Et du coup, ils étaient sur le point de passer à une autre spiritualité, plus impressionnante. Notre temps ressemble à celui-ci. Qui est impressionné par la vie chrétienne normale aujourd'hui? Ce sont d'autres spiritualités qui sont à la mode, qu'elles soient plus ésotériques ou qu'elles soient plus rigoureuses. Combien nous avons alors besoin d'entendre l'exhortation de Paul au chapitre 3 ? Tu brûles, nous y sommes. Les petits chrétiens que nous sommes tiennent le bon bout s'ils s'accrochent au Christ avec lequel ils sont unis. Les fondamentaux n'ont pas changé pour eux, pour nous. La mort et la résurrection du Christ d'une part, et l'assemblage d'une corporation en Christ d'autre part. Nous sommes des morts et des ressuscités avec Christ. Christ est notre vie. Nous sommes des membres du corps du Christ. L'Église est notre réalité. Alors avançons dans nos vies chrétiennes, nos petites vies, avec le courage et la sincérité qui conviennent à qui nous sommes. Un courage et une sincérité qui n'ont l'air de rien de par le monde, mais qui sont sans pareil pourtant, si on les examine de plus près. Au Dieu de Jésus-Christ soit la gloire pour ce qu'il fait en nous. Je vous propose de prier ensemble. Père Céleste, tu es un Dieu qui veut nous prendre là où nous sommes, au milieu de nos agissements mauvais, avec les pensées qui nous animent, et faire de nous des créatures renouvelées, avec une intelligence bien disposée. Dans ce projet, nous reconnaissons combien nous avons besoin de toi, nous reconnaissons combien le Christ doit être au centre. Nous ne voulons pas faire quoi que ce soit pour t'impressionner, mais nous voulons vivre de la vie qui nous caractérise déjà dans l'Évangile. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous le courage, donne-nous la sincérité pour nous regarder tels que nous sommes déjà de façon cachée au ciel et que, ici-bas, dès à présent, nous voulions nous mettre en conformité. Merci parce que dans les batailles que nous menons, nous ne sommes pas seuls. Tu nous bénis par ton Église au sein de laquelle on peut s'encourager et se parler la vérité dans l'amour. Conduis cette congrégation, et notamment dans l'année qui s'ouvre, que le courage et la sincérité puissent marquer les uns et les autres individuellement et collectivement. À toi soit la gloire pour toutes choses, dans le nom précieux de Jésus-Christ.